Bon.
On va y aller. Hein.
On va y aller.
Répétition, inconscient, moi, culpabilité, lapsus,
désir, psychose, phobie, sexualité,
complexe, lapsus, culpabilité,
moi, culpabilité, complexe,
moi, inconscient,
lapsus,
répétition,
sexualité,
complexe,
désir, psychose, culpabilité,
désir, moi,
répétition,
inconscient, sexualité, complexe,
culpabilité,
lapsus, culpabilité,
lapsus,
moi,
sexualité,
répétition,
psychologie,
la sexualité, lapsus, culpabilité, moi, inconscient, répétition. Ah, je vais dans l'autre sens?
Oui, d'accord, ok.
MDL. Les mots délivrés des livres. Pour écouter autrement.
Sans faire trop sérieux non plus.
Faut quand même être un peu sérieux des fois.
Ok.
Sur la trace des mots.
Sur les chemins de notre intériorité.
Une ouverture éclair.
Sur des livres qui se livrent.
Mais qui se lisent aussi.
Olivier Lostis de l'Esperluette.
Gabriel Seban, qu'on espère net. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel.
Alors, qu'est-ce que tu as accroché à tes branches aujourd'hui?
Alors, la culpabilité, avec trois livres, La Chute, Le Procès et Bonneville. Alors, La Chute de Camus, texte très connu bien sûr, chez Gallimard, c'est l'histoire d'un ancien juge qui raconte sa chute à un interlocuteur anonyme. S'il est juge à propos de culpabilité, c'est pas pour rien. Celle dont on parle, c'est la culpabilité que l'on ressent. Pas celle que décrète un juge, bien sûr. Mais on voit bien ici que si Camus fait intervenir un juge pour la culpabilité qu'on ressent, c'est qu'il suppose que nous avons tous un juge intérieur, que Freud, par exemple, a pu appeler sur moi. Le juge ne se remet pas d'un moment, non pas où il a mal agi au regard d'une morale, mais où il n'a pas agi. Par lâcheté, peut-être, ce qui peut aussi s'exposer au jugement moral, un peu comme Lord Jim de Conrad. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'aurait rien pu faire s'il avait tenté quelque chose, quand il n'a pas agi, et que même il y aurait risqué sa vie. Au fond, il a été rationnel, il a été normalement prudent, mais une instance intérieure le condamne parce qu'il n'est pas sûr. Quelque chose l'empêche de savoir vraiment s'il a bien agi. Il doute, mais le doute se transforme en culpabilité qui finalement va ruiner sa vie. Finalement, il est un peu mort en n'ayant pas risqué sa vie.
Alors, ça me suggère que la culpabilité est un lierre qui s'enroule autour de nos doutes, des insuffisances de nos actes, et qui laisse quelquefois nos actes, qu'il délaisse plutôt nos actes, pour mieux y revenir en chacal affamé, lorsque le bouclier moral commence à s'effriter. La justice des hommes est-elle suffisante pour atteindre l'idée du juste que chacun porte en soi?
Ça, c'est une question de philosophie qui oppose la question morale et la question éthique. L'éthique comme une sorte de sagesse pratique, c'est un peu aussi le sujet de la chute de Camus, dans la mesure où la sagesse pratique, la sagesse concrète en tout cas, conduit cet homme à ne pas agir. Pour autant, du point de vue de la morale, c'est répréhensible d'une certaine façon. Alors on peut prolonger le propos avec un autre très grand texte de la littérature mondiale, bien sûr, Le Procès de Kafka, également chez Gallimard. Ce qui est intéressant pour notre propos, c'est surtout la scène d'entrée dans le livre. C'est une scène assez extraordinaire où deux policiers vont venir arrêter le héros. Ils ne savent pas pourquoi, lui non plus, le héros ne le sait pas, mais il est coupable. Sans motif. C'est souvent ça, au fond, pour le sentiment de culpabilité. En général, on ne sait pas vraiment pourquoi on se sent coupable. Ou alors, on sait pourquoi, mais ce n'est pas forcément la vraie raison. Bon, bien sûr, il y a une scène dans ce livre, un événement, quelque chose, mais tout le monde ne se sent pas coupable pour une même chose. Et ce n'est pas qu'une question morale. C'est aussi parce que ce n'est pas forcément la mauvaise action qui pose un problème, mais le fait qu'on est parfois confronté à l'impossible. et qu'il est plus facile de s'exposer à un interdit moral plutôt qu'à un désir impossible. C'est ce qui arrive au héros, sans doute. Son désir est impossible. Comme le désir du juge chez Camus est impossible aussi. Il n'aurait pas pu sauver la personne qu'il n'a pas sauvée. Alors le désir est impossible, mais on refuse de s'en rendre compte. Là, Kafka nous joue un tour, parce que le désir impossible du héros, au fond, c'est d'être innocent. Mais qui est innocent ? C'est impossible. Alors tout le monde finira par considérer qu'il est coupable, même si on ne sait pas de quoi. Alors qu'il n'est coupable que d'une chose, au fond, c'est de ne pas avoir accepté d'affronter cette impossibilité d'innocence. L'interdit, c'est plus facile, c'est plus tangible, finalement, que l'impossible.
Alors, la morale est face à la transgression qu'elle peut générer de façon plus ou moins consciente. Parce que le désir est plus fort ou parce que le surmoi n'a pas pesé comme il l'aurait été sans doute souhaitable. L'innocence exempte de pureté prend la coloration du linge sale dans le tambour d'une machine à laver institutionnelle. De cette impossibilité à laver correctement, la culpabilité est essorée. Mais le linge n'en est pas moins sec.
Je vais citer une phrase un peu longue de Freud qui disait « Ce qui l'emporte est le besoin d'être malade. » On en arrive à l'idée qu'il s'agit d'un sentiment de culpabilité qui trouve satisfaction dans la maladie et ne veut pas renoncer à la punition par la souffrance. On voit de quelle manière la culpabilité, au fond, relative à un interdit, peut nous arranger. Souffrir de ça, c'est moins coûteux finalement que souffrir d'un désir absolument impossible qu'on savourait enfin. Par exemple, dans un roman récent, Bonneville, de Saulnier, aux éditions du Dilettante, on se retrouve face à une situation un tout petit peu différente. En fait, c'est un homme jeune, un peu simplet, qui va hériter, à la mort de son père, d'une voiture de collection, une vieille voiture, une Pontiac Bonneville, d'où le titre Bonneville. Il va prendre l'habitude tous les soirs, toutes les nuits, de s'asseoir au volant de cette voiture et de prendre la route. Mais cette voiture ne fonctionne pas. Donc il prendra la route uniquement dans sa tête. Il va imaginer prendre la route. À un moment, même si la distinction entre la réalité et le rêve chez cet homme est quand même particulièrement floue, il va quand même vouloir que cette voiture roule. Et il va vouloir la faire réparer, sauf que ça demande beaucoup d'argent et il n'en a pas. Pour s'en procurer, il va simplement imaginer des petits larcins. Mais comme on le sait, il est un peu simplet et très maladroit, il va y avoir des témoins gênants. Un premier témoin gênant dont il va falloir se débarrasser, qui sera suivi d'un autre témoin gênant qui a vu la manière dont il s'était débarrassé du premier, etc., etc. Enfin, dans une espèce de comédie policière un peu délirante, très très amusante au fond. Et il va donc accumuler un ensemble de victimes comme ça. Ces victimes vont revenir, parce que la voiture ne marche toujours pas, sur la route qu'il prend la nuit au volant de sa voiture. Ils vont revenir le visiter. Et on voit comment, justement, cette question-là, bien sûr, là, on est dans un cadre de folie, bien que lui ne se sente pas coupable, il va fabriquer dans son délire une situation où il va être mis en accusation. C'est-à-dire que ça va lui revenir de l'extérieur, cette culpabilité-là. Et on voit bien de quelle manière cet homme est malade plutôt que de se sentir coupable. Sa maladie, c'est d'être persécuté, au fond.
Ici, effectivement, le délire, c'est plutôt le délire qui fabrique la culpabilité, qui ne s'énonce d'ailleurs pas comme telle, particulièrement envahissante. Mais la culpabilité est-elle une pathologie ?
Eh ben oui et non, parce que bien sûr, dans les exemples, la chute de Camus, du procès de Kafka, ou bien dans la situation du jeune homme de Bonneville, oui, ça fabrique manifestement de la maladie et de la souffrance. Mais justement, ça fabrique de la maladie et de la souffrance parce que ça ne s'avoue pas comme une culpabilité. C'est-à-dire que c'est un sentiment de culpabilité, oui, mais inconscient. Par contre, on peut tous se sentir coupable de tout un tas de choses, tout le temps. Et ça, au contraire, non seulement ça n'est pas du tout nécessairement pathologique, sauf si ça pèse trop lourd, bien entendu, mais surtout, c'est aussi ce qui nous permet de vivre ensemble. Imaginez un instant où nous soyons tous le héros de Bonneville, où nous puissions tous, sans culpabilité, Assassiner notre voisin ou un inconnu comme ça dans la rue sans jamais ressentir la moindre limite. En fait, la culpabilité, c'est ce qui nous pose des limites et qui permet aussi une vie collective à peu près normale. Alors maintenant, Gabriel, le mot délivré du sens.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur. De cette parenthèse. De cette parenthèse. Un truc là qui claque, un truc là qui claque. De. Vous inquiétez pas, ça repart.
Les tics faciaux incessants qui le tourmentaient n'en finissaient pas de laisser penser qu'il était dérangé et peut-être même atteint d'une pathologie repérable. Certes, il ne disait pas de gros mots comme l'aurait pu le penser la Tourette ou un contemporain plus affranchi. C'est donc avec une gêne certaine qu'il lui tendit la main, ponctuant son geste d'une hésitation tremblotante qui ne mit pas à l'aise du tout la jeune femme qui se trouvait devant lui. « Je vous écoute, » dit-il en bégayant. Elle décida tout de même de se confier à ce psy qui lui avait été recommandé.
Voilà, rendez-vous le mois prochain.
Et que les mots vous portent bien.
À bientôt. Thank you.